Studio Tamani, voici nos informations en français.
8h à Bamako et partout au Mali, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition avec une présentation de Mouhamadou Touli. La situation sécuritaire demeure préoccupante au Mali, regrette des défenseurs des droits humains. Ils l'ont rappelé à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'homme célébrée aujourd'hui. Les enseignants du secondaire du district de Bamako réclament leur salaire du mois de novembre. Ils sont en arrêt de travail depuis mercredi dernier. Les conclusions des travaux de relecture du cadre juridique régissant les médias au Mali ont été remises cette semaine à la Haute Autorité de la Communication. Selon les responsables, la Maison de la Presse, ce document permettra une meilleure prise en compte de l'éthique et la déontologie dans la pratique du journalisme. Le développement de ces titres tout de suite avec une mise en onde assurée par Nouhoum Diré. Le président de la transition, Assimi Goïta, s'est adressé hier à la nation et a salué la mémoire des victimes civiles et militaires de l'insécurité, notamment celle de Songo dans la région de Bandiagara. Le président a accentué son discours sur les assises nationales de refondation qui commencent demain dans le pays. Colonel Assimi Goïta a indiqué que ces assises constitueront un moment privilégié d'examen collectif de compte. Prospective. Selon lui, c'est un événement précurseur du processus de renaissance du Mali. Nous reviendrons avec plus de détails sur son discours dans notre édition de ce soir. Je le disais dans les titres, le monde célèbre aujourd'hui la Journée des droits de l'homme. Elle intervient au Mali dans un contexte marqué par des violations dénoncées par les défenseurs des droits humains. Le dernier rapport trimestriel de la MINUSMA publié en septembre dernier annonçait 159 violations des droits de l'homme et 566 atteintes à ces droits dans le pays. Où en sommes-nous donc avec le respect des droits de l'homme au Mali? Le point avec Elisabeth Ouellette Mohamed.
La situation sécuritaire demeure préoccupante au Mali, se lamentent les défenseurs des droits de l'homme. Dans son rapport trimestriel sur les tendances des violations et abus de droits de l'homme au Mali, la MINUSMA a enregistré sur la période allant du 1er avril au 30 juin 2021 au moins 527 civils tués, blessés, enlevés ou disparus. 50% d'actes de violence contre les civils et leurs biens ont été commis dans les cercles de Bajangara, Douanza, Djenné, Koro, Mopti, Nyono et Ségou. Dans ceux d'Ansongo et Gao, 15% indiquent le dit document. Un dernier rapport d'Amnesty International publié en septembre pointe du doigt la fermeture des écoles au centre du pays. Cette situation prive ainsi les enfants de leur droit à l'éducation, précise le rapport. Selon l'UNICEF, 1261 écoles étaient fermées en mars en raison de la menace des groupes armés. Le même rapport d'Amnesty International indique que les droits à ne pas être détenus arbitrairement, à la liberté de mouvement et à la liberté d'expression ont été entravés.
La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, juge ainsi le tableau des droits de l'homme au Mali peu reluisant. Elle note de nombreuses formes de violation des droits humains au Mali. Agui Boubouaré, président de la CNDH, est joint au téléphone par Amsetou Gogo Touré.
Les atteintes au droit à la vie, à l'intégrité physique et à la sécurité se sont accentuées. En plus de la situation de l'esclavage par ascendance, il y a connu des développements graves au niveau de la région de Kaï. Sans oublier la situation des personnes privées de liberté, où on constate une surpopulation carcérale, c'est-à-dire un abus d'émission de mandats de dépôt. Nous enregistrons également ce qu'on peut appeler des allégations d'atteinte à la liberté d'expression et à la liberté d'opinion. Les atteintes au droit à l'éducation, les écoles sont fermées et du fait des terroristes, les atteintes au droit à la vie.
Et l'Association de défense des droits de l'homme et la Fédération internationale pour les droits humains rappellent que le respect des droits humains est plus qu'important dans le processus de développement d'un pays. Drissa Traoré, coordinateur national du programme conjoint de la FIDH, est jointe au téléphone par Elisabeth Ouellette Mohamed.
Ce que nous faisons, c'est d'essayer de documenter ces violations graves des droits de l'homme, ensuite alerter l'opinion nationale et internationale, surtout les décideurs nationaux, pour les exhorter à prendre des mesures idoines afin de stopper ces violations. Donc au-delà de ces dénonciations et alertes, nous apportons un appui à ces victimes-là, et notamment une assistance juridique, permettant aussi de recouvrer tous leurs droits à la justice, à la vérité et à la réparation. Donc cette assistance est parfois accompagnée d'une assistance psychosociale. Travaillant avec d'autres organisations associations qui apportent de l'appui médical et aussi de l'appui économique pour permettre à ces victimes-là qui sont aujourd'hui dans des situations économiques difficiles de pouvoir se réinsérer dans la société et de faire des activités génératrices de revenus.
Vous retrouverez ce dossier sur notre site web www.studiotamani.org. Vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook et notre compte Twitter. Le processus de réforme du secteur de la sécurité RSS est au cœur d'une étude réalisée à Kaï, Mopti et Gao entre 2020 et 2021. Les enquêteurs ont présenté hier à Bamako les résultats de l'étude. L'objectif de cette enquête menée par le Centre d'études et de réflexion au Mali CERM avec l'appui de la Fondation Frédéric Hébert et l'Union européenne est de relever les défis locaux en matière de sécurité au Mali. Le point avec Draman Maïga.
Selon ces rapports, la faillite de l'État a poussé les populations à l'autodéfense. À cela s'ajoutent la précarité et le manque d'emplois qui sont entre autres les causes de l'insécurité, précise le document. Pour y remédier, les autorités doivent réinstaurer une confiance politique entre elles et les populations, affirme Bart Ouvry, ambassadeur de l'Union européenne au Mali.
S'il n'y a pas de confiance politique, il est très difficile de faire progresser des procédures de réforme du secteur de sécurité. Mais bien entendu, il n'y a pas que le Nord, il y a aussi le Centre. Nous voyons bien ce qui se passe aussi au Sud du pays.
Pour les enquêteurs, la sécurité pour tous passe forcément par l'implication des populations civiles. C'est aussi ce qui permettra une vraie réforme du secteur de la sécurité. Docteur Alassane Gao Koui, enquêteur de Gao.
Donc aujourd'hui, ce que les jeunes veulent, il faut que les FDS acceptent que la sécurité n'est plus simplement 100% militaire. Il faut introduire les civils.
Selon ces rapports, 302 cas d'insécurité par mois dans le Sahel. Rappelons que plusieurs incidents se sont produits cette semaine au nord et au centre du pays.
Un document de 62 pages intitulé « Proposition de cadre juridique régissant les médias au Mali » a été remis mercredi dernier au président de la Haute Autorité de la Communication par le président de la Maison de la Presse du Mali. Ce document résume les conclusions des dispositions mises en œuvre par la Maison de la Presse pour limiter ou empêcher les délits de presse. Ali Cissé nous en dit plus.
Selon Bandjougou Danté, président de la Maison de la Presse du Mali, ce document permettra de doter le Mali des textes qui régissent la bonne application de l'éthique et la déontologie de la presse dans le pays.
Ce travail n'est pas le résultat de la réflexion d'une personne. Ce travail est un travail de la presse malienne. Qui mieux que la haute autorité de la communication pour porter ce dossier auprès des plus hautes autorités pour que le Mali soit enfin doté des textes qui rendra à sa presse toute sa dignité.
De son côté, le président de la Haute Autorité de la Communication s'engage à tout mettre en œuvre afin de trouver la meilleure formulation à ces textes pour qu'ils soient pris en charge par le Conseil national de transition et par le gouvernement. Fodié Touré, président de la HAC.
Je m'engage à œuvrer pour que entre la famille judiciaire et la famille des médias ne règne que parfaite entente, collaboration permanente. C'est une mission, une responsabilité historique que vous me confiez. Je l'accepte et je m'engage à la faire aboutir. Je me ferai le devoir dans les plus prochains jours de voir avec le chef de l'administration malienne quelle est la meilleure formule à adopter pour que ces textes-là soient pris en charge par le Conseil national de transition, par le gouvernement lorsqu'il s'agira d'adopter un décret.
Il faut noter que la Maison de la Presse s'appuie aujourd'hui sur des structures d'autorégulation pour gérer des cas de délits commis par des journalistes.
Je le disais dans les titres, les enseignants du secondaire du district de Bamako sont en arrêt de travail depuis mercredi dernier. Ils réclament leur salaire du mois de novembre. Aboubakar Abdouk Touré, coordinateur du syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire des collectivités, est au micro de Sita Sidibé pour nous expliquer les raisons de cet arrêt de travail.
Et cet arrêt est occasionné par le fait que nous sommes aujourd'hui le 8 décembre. Nous n'avons pas encore nos salaires du mois de novembre. Donc voici la raison pour laquelle nous avons décidé d'aller en arrêt de travail. Parce que depuis fort longtemps, au niveau du district de Bamako, nous sommes pités à cette difficulté. Nous l'avons décrié, mais malheureusement, jusque-là, la situation elle est telle qu'elle est. Chaque fois, il nous faut aller en arrêt de travail pour parvenir à obtenir nos salaires.
Alors, combien de jours durera cet arrêt de travail?
Ça dépend. Aujourd'hui, les salaires vont commencer. On constate que le paiement est fait partout. Nous sommes prêts à rentrer.
Alors, est-ce que cet arrêt de travail est national?
Cet arrêt de travail ne concerne que le district de Bamako. C'est le district qui est confronté à ce problème. Ça fait des années.
COVID-19, 76 nouveaux cas positifs, 55 patients guéris et un décès ont été enregistrés jeudi 9 décembre 2021, c'est-à-dire hier, par les autorités sanitaires du Mali. La situation cumulée à ce jour est de 18 329 cas positifs, 15 415 patients guéris et 622 décès. Retrouvons maintenant Khalifa Goïta pour notre chronique Actu Covid.
À Nioro du Sahel, 3 détenus ont été testés positifs à la COVID-19. Le comité local de lutte contre les pandémies et les catastrophes de la localité l'a annoncé le 6 décembre dernier. Les responsables du comité disent l'avoir su suite au décès de 2 détenus en une semaine. Comment la prise en charge des cas positifs est faite et quels risques encourent les autres détenus? Docteur Safoune Dakité, médecin-chef du centre de santé de référence de Nioro du Sahel, nous l'explique. Il est au micro de notre correspondant Abdoul Karim Sow.
Nous, on n'avait pas de tentes où les isoler. Même si on avait des tentes, il fallait mettre les gardes. J'ai échangé avec le juge, avec le directeur régional de l'administration pénitentiaire. J'ai vu une grande salle à peu près de 24 mètres carrés. J'ai dit, à défaut de les extraire, on va mettre les 3 là-bas. Mais de façon séparée, je rassure tout le monde qu'ils ne sont pas dans un état grave. Nous avons des extracteurs d'oxygène en cas de besoin pour les mettre sous oxygène. On les a directement mis sous traitement. On les a immédiatement dotés en masques, 2000 masques à usage unique, 100 masques lavables. Les chambres, tout a été pulvérisé. Le dispositif de lavage de mains n'était pas suffisant dans la cour. Et aussi, on a préconisé la distanciation sociale. Donc, il n'y a pas de feu à la maison. Le seul risque aujourd'hui dans la maison d'arrêt, c'est qu'il y a une surpopulation. La contamination est très facile. Et on peut s'attendre à d'autres cas dans les jours à venir. Ils sont déjà vaccinés avec Johnson & Johnson. Comme ça, c'est à dose unique, ils seront déjà prémunis une première fois. C'est une garantie pour nous. Donc, il faut que le ruisseur aussi prenne des dispositions. Que chaque détenu qui rentre désormais, que le test soit fait à l'entrée avant que le détenu n'intègre les autres. Nous, on ne pourra pas vraiment dire aujourd'hui l'origine exacte parce qu'on n'a pas fait de test post-mortem pour les cas qui sont décédés.
Le saviez-vous? Le délai de validité des tests PCR est toujours fixé à 5 jours pour les voyageurs de l'espace UEMOA. Mais tel n'est pas le cas en Europe. Plusieurs pays européens, dont la France, imposent une durée de 48 heures des tests COVID-19, selon un communiqué de l'ambassade de France au Mali. Et c'est sur cette information que nous refermons notre chronique du jour. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres actus sur la COVID-19. Mais avant, continuez à respecter les mesures barrières pour vous protéger de la maladie.
Studio Tamani. Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Un tour à l'intérieur du pays. À Gao, les 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles ont pris fin mercredi dernier. C'était avec une conférence débat organisée à l'intention des femmes. Il s'agissait d'échanger sur les violences faites aux femmes afin de faire des propositions adéquates pour éradiquer le phénomène. Plusieurs thématiques étaient au centre de la conférence, à savoir les violences basées sur le genre, la résolution 1325, mais aussi la prise en charge des victimes. La rencontre a été organisée par l'ONG Grefa en partenariat avec l'aide de l'église norvégienne. Le hameau de Yodimé, dans la commune rurale de Fakolo, cercle de Kuchala, a été certifié mercredi dernier localité propre grâce à la fin de la défécation à l'air libre dans la localité. Le village était en compétition avec 80 autres localités. La cérémonie de certification couplée à la célébration de la Journée mondiale des toilettes a été l'occasion de sensibiliser les populations à l'utilisation des latrines pour anéantir les maladies. Le thème portait sur qui souffre du manque de toilettes. 166 réfugiés ivoiriens de Sikasso ont regagné hier leur patrie. Ce 14e convoi est majoritairement composé de personnes âgées de 3 mois à 18 ans. Ces Ivoiriens ont remercié les autorités maliennes et le peuple malien pour leur hospitalité. C'est la Commission nationale chargée des réfugiés, AMSOD, et le HCR qui ont facilité ce retour. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web www.studiotamani.org ou en appelant au 37 321. Le journal vous a été présenté par Mouhamadou Touré. La mise en onde a été assurée par Noum Djiré. Juste après le magazine Tous les enfants du Mali, vous pourrez suivre la version Bambara avec une présentation de Idrissa Sakho. Dans le cadre du mois de lutte contre le VIH-Sida, aujourd'hui, nous nous sommes intéressés au cas des enfants. Comment protéger un enfant issu d'un couple séropositif? Les spécialistes de la santé affirment qu'actuellement, au niveau national, 0,02% d'enfants naissent avec le VIH-Sida. Cela parce que les parents ne connaissent pas leur état sérologique. Et pourtant, selon eux, il existe des stratégies pour sauver les enfants qui ont des parents porteurs de virus. Comment? Réponse dans ce magazine Tous les enfants du Mali, présenté par Aïssata Diarra.
Tous les enfants du Mali, le magazine des enfants.
Selon des virologues, des enfants peuvent naître avec le VIH-Sida si la sérologie des parents n'est pas détectée à temps. Une situation qui peut pourtant être évitée, indique-t-il. Ainsi, pour réussir cette épreuve, les médecins suggèrent aux parents de faire des analyses au préalable pour connaître leur état de santé. Al-Mustapha Maïga, chef de service au département biologie médicale à l'hôpital Gabriel Touré, explique les étapes à suivre.
Première chose qu'on fait, c'est que toutes les femmes qui sont séropositives pour le VIH prennent des traitements antirétroviraux. Les médicaments antirétroviraux vont détruire le virus qui circule dans le sang et vont empêcher à ce que l'enfant qui naît soit infecté par le VIH. Ça, c'est la première stratégie. Et quand la maman accouche, la maman va toujours continuer à prendre les médicaments et elle pourra continuer à donner le sein, faire l'allaitement maternel sécurisé sans transmettre le virus à l'enfant. À la naissance aussi, on donne des médicaments à l'enfant pendant 2 à 3 semaines avant de lui faire ce qu'on appelle un dépistage du VIH. Il faut qu'elles adhèrent au traitement et il faut qu'elles fassent ce qu'on appelle un suivi biologique, des analyses pour vérifier la quantité de virus qui circule dans le sang.
D'autres nouvelles avec Aboukrine Ag Mohamedine Yatara.
À Saint, les populations s'engagent dans la protection des enfants. Une rencontre de plaidoyer sur les sujets a eu lieu le mardi dernier. L'objectif était d'amener les acteurs à prendre des décisions concrètes en vue de lutter efficacement contre le travail des enfants, l'enlèvement des jeunes filles et de trouver des voies et moyens pour éviter les cas d'abandon de l'école. La rencontre a enregistré la présence des responsables scolaires, les partenaires de l'école et les organisations de la société civile. La rencontre a été financée par l'ONG Enda Mali.
83 élèves ont repris le chemin de l'école grâce à l'initiative Back to School à Bankass, dont 37 filles et 46 garçons déplacés internes. Cela a été possible suite aux activités de sensibilisation dans les ménages par les responsables du Back to School. L'information a été donnée mardi dernier par le chef du service local du développement social et de l'économie solidaire. C'était au cours d'une séance de dialogue communautaire sur les retours à l'école au Cap de Bankass. Fin du magazine Tous les enfants du Mali, à la semaine prochaine.
C'était le magazine Tous les enfants du Mali.